Avant, si vous voulez, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons faire silence dans nos cœurs pour être attentifs à ce que tu as à dire à chacun d'entre nous. Seigneur, c'est toi qui dois parler. Et Seigneur, nous voulons mettre de côté tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous inquiète, Seigneur, et l'apporter au pied de ta croix. Seigneur, merci encore parce que nous avons encore ce privilège d'entendre ta parole. Alors, parle à nos cœurs, Seigneur, que nous puissions mettre en pratique ce que tu as à nous dire. Nous te remettons tous ceux qui n'ont pas pu être là ce soir, nous te remettons en particulier notre frère René, notre frère Claude aussi, Seigneur, veuille les bénir, prendre soin d'eux, les renouveler, Seigneur, ils ont besoin de toi. Seigneur, merci encore de pouvoir compter sur toi pour toutes choses. Amen. Alors on va aborder un sujet d'actualité un petit peu brûlant. Toute cette semaine, je réfléchissais après, on en avait parlé avec quelques frères, sur l'état de l'Église actuelle. Et notamment de la nôtre, attristé de voir qu'à mesure que nous vieillissons, le nombre de membres diminue et de voir parfois le peu d'intérêt des âmes pour les réunions d'études bibliques et la réunion de prière pour les repas fraternels, après avoir remarqué la désaffection progressive des frères et sœurs pour ces moments, le peu de louanges de dimanche, malgré les exhortations, on en a encore eu dimanche. Et je me suis posé plusieurs questions. Tout d'abord, pourquoi ? Puis ensuite, quoi faire? Quelle est la solution? Quelle position adopter? Quelle est ma responsabilité, surtout? Quelle doit être ma propre position? En demandant au Seigneur de m'éclairer par son esprit, par la parole, et dont je vais vous faire part de ce qui m'a été montré. Alors, il n'est pas question de faire le procès de qui que ce soit, ce n'est pas le problème. Puis je ne suis pas juge, je n'ai pas à me mettre au-dessus des autres, surtout pas. Ne croyez pas cela. Mais on est bien obligé de se poser des questions. Alors, donc le pourquoi déjà. Et il est évident qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être là parce qu'ils ne peuvent pas. Leur état de santé ne le permet pas. Il y a parfois des impératifs, le travail ou d'autres. Hein. C'est pas, là encore, ce n'est pas à nous de juger. Mais il faut bien admettre que le fait de nous voir peu nombreux lors de ces réunions, ça interpelle. Alors on pourrait penser que les messages ne sont pas percutants, qu'ils ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit, malgré le fait que tous ceux qui apportent la parole de Dieu parmi nous, ça j'en suis sûr, se mettent devant le Seigneur en lui demandant de façon sérieuse quelles paroles ils doivent apporter. Suis-je capable de le faire? Certainement pas, du moins par mes propres moyens. Mais le fait de se sentir incapable, c'est la meilleure façon de laisser la place au Seigneur pour que lui parle et fasse de moi, de ceux qui apportent la parole, qui ont cette responsabilité d'apporter les messages, d'être des canaux à travers lesquels le Seigneur peut parler. Quand on se sent incapable, c'est la bonne position. Il y a aussi le fait de penser que lorsqu'on est un auditeur, que le messager apporte des paroles justes, mais que ce qu'il apporte n'est pas en relation avec ce qu'il vit. Lorsque je parle de la mort à soi-même, du service, quand je cite ces versets, quand je vais vous reprendre, je vais vous lire, Colossiens 3, 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père, ou 1 Corinthiens 10, 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que je les vis réellement? Est-ce une réalité dans ma propre vie pour que j'exhorte les autres à mettre en pratique ces ordres que le Seigneur me donne? Alors oui, je dois reconnaître que j'ai encore beaucoup de progrès à faire, que je suis loin de dire comme l'apôtre Paul, « Soyez mes imitateurs ». Mais si j'attends d'être comme l'apôtre Paul pour apporter un message, je risque et vous risquez d'attendre très longtemps. Puis j'ai remarqué une chose. Un exemple dans la parole de Dieu, certes, un exemple à ne pas suivre, mais où le Seigneur a utilisé un homme qui n'était pas recommandable pour apporter la parole de Dieu et pour bénir le peuple d'Israël. Cet homme, c'est Balaam. Dans Nombre 22, le roi de Moab, Balak, il a tellement peur d'Israël, de sa puissance, à cause du Seigneur qui les conduit, qui les guide, donc le roi de Moab, Balak, est effrayé. Il est terrorisé et il craint pour son propre peuple, pour sa position, pour Moab, car il sait et il voit que ce peuple est béni. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des messagers chez Balaam, qui est un prophète, pour maudire le peuple en lui proposant de l'argent. Ce que l'Éternel, au départ, refuse catégoriquement. Et devant l'insistance des messagers, le Seigneur lui permet d'aller chez le roi Moab, en fait pour le tester, et pour révéler en fait ce qui motive Balaam, sa cupidité, en voyant là une occasion de s'enrichir. Le Seigneur le teste, en fait, pour voir jusqu'où il ira, en utilisant même une ânesse qui va lui parler. Elle, cette ânesse, va voir l'ange de l'Éternel devant ses yeux, alors que Balaam a les yeux complètement obscurcis, qu'il ne le voit pas. Voilà où il en est, ce Balaam. Et l'Éternel va utiliser ce faux prophète pour bénir le peuple et manifester sa puissance. Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre cet exemple. Loin de là, ce serait catastrophique. Mais en fait, on peut voir que le Seigneur n'est pas limité pour parler à un cœur. Et en fait, le Seigneur me demande une chose, de faire comme Pierre a dit au boiteux de la belle porte, « Ce que j'ai, je te le donne. Et ce que j'ai, ce n'est que ce que le Seigneur m'a donné, lui-même, et rien d'autre. » Alors, y a-t-il aussi un manque de soif? La réponse est oui. Lorsqu'on voit des chrétiens capables de faire des kilomètres à pied, dans le froid, le vent, pour entendre la parole de Dieu, malgré les risques de persécution. Le manque de soif est présent dans nos cœurs, mais aussi dans le mien. Pourquoi je dis ça? Lorsque je vois, on va prendre quelques versets dans la parole, quand je vois les intercessions de Moïse, de Jérémie, celles de Daniel, d'Esdras, de Paul, je suis loin de ça. Ces intercessions, on va prendre quelques versets. Moïse, en descendant de son face-à-face avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, en face-à-face avec son Dieu, il descend, qu'est-ce qu'il voit? Le peuple qui s'est corrompu, qui s'est fait un veau d'or pour l'adorer. Que dit-il? Il va les condamner. Exode 32, verset 31-32. Exode 32, verset 31-32. Donc il vient de constater le péché du peuple. Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Vous vous rendez compte où il en est? Ce qu'il demande, d'être privé du paradis, du livre de vie, pour que le peuple soit sauvé. Voilà sa façon d'intercéder. Jérémie, devant la ruine de Jérusalem, l'état catastrophique du peuple qui se sont fait des dieux, qui ont adoré la reine du ciel, qui ont fait un tas de choses, mais épouvantables, jusqu'à sacrifier leurs enfants. Et le peuple est dans la ruine. Et Jérémie, qu'est-ce qu'il dit au chapitre 14? On va prendre Jérémie 14, versets 1 à 6. Jérémie 14. La parole fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil. Ses villes sont désolées, tristes, abattues. Et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau, et retournent avec leurs vases vides. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante parce qu'ils ne tombent point de pluie dans le pays. Et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée, parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux célestes, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent, parce qu'il n'y a point d'herbe. La sécheresse. La sécheresse, ce n'est pas la sécheresse physique seulement, climatique. C'est la sécheresse spirituelle. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quelle va être la réaction? C'est bien fait pour vous? Fallait écouter ce que je vous ai dit. Je vous avais prévenu. Verset 7. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. Voilà ce que dit Jérémie. Il prend sur lui le péché du peuple. Il s'associe au péché du peuple. Lui, homme droit, qui va être poursuivi, condamné, qu'on va mettre dans une citerne, qu'on va mettre dans une prison, parce qu'il apporte simplement la parole de son Dieu et qu'il est fidèle dans le ministère qu'on lui a confié. Et puis, il va dire au verset un petit peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 20 et 21, « Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire, n'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. » Il s'en réfère à son Dieu, à sa fidélité, à sa puissance, à son alliance. Ne déshonore pas ton nom. Voilà ce qu'il préoccupe. L'honneur de son Dieu. Et il prend sur lui le péché du peuple. C'est pas du mensonge ce qu'il dit. Il le prend sur lui. On voit là l'intercession de cet homme. Et je suis complètement discrédité face à de telles prières. Il en est même pour Esdras ou Paul. Paul, dans Romains, au chapitre 9 et au verset 2 et 3, voilà ce que dit Paul. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème, c'est-à-dire banni et séparé de Christ. Il demande ça. Pour mes frères, mes parents selon la chair. Voilà, en fait, qu'est-ce qu'il a dans son cœur ? De la condamnation ? De l'amour pour ses frères et sœurs qui sont dans la détresse parce qu'ils ont péché. Pourtant, ces hommes que sont Moïse, Paul et Jérémie n'ont-ils pas subi la haine de leurs congénères, eux qui voulaient tuer ces prophètes ou apôtres, parce qu'ils le disaient uniquement ce que Dieu leur demandait de dire, la vérité. Et l'exemple suprême dont il m'est demandé de suivre les traces, c'est celui du Seigneur Jésus lui-même, qui a subi tous les outrages, toutes les humiliations, lui qui, encore sur la croix, en train d'agoniser, subissait les moqueries et les provocations. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. Et il l'était. Il était en train d'être martyrisé, de souffrir quelque chose d'atroce, physiquement, moralement, spirituellement. Et l'homme, dans sa méchanceté, allait encore le provoquer. Et parce que Satan était derrière, Satan ne voulait pas que le Seigneur Jésus meure sur la croix. Le Fils de Dieu n'avait qu'un but. Le Seigneur Jésus n'avait qu'un seul but, obéir à son Père et porter en son propre corps mes péchés sur la croix, parce qu'il m'aimait et qu'il voulait me sauver, te sauver. Il est allé jusqu'au bout, acceptant d'être fait péché lui-même. Alors oui, il y a parmi nous et dans mon cœur un manque de soif. Et je pourrais mériter, en voyant le peu de louange devant ce que le Seigneur a fait pour nous, jusqu'où va son amour. Il y a une petite pensée qui m'est venue le dimanche. Quand on fête un anniversaire, tout le monde dit merci. Tout le monde. Et puis quand il s'agit de louer le Seigneur, on ne le fait pas. Mais un simple merci, ça suffit. Ce n'est pas encore un jugement, mais c'est une constatation. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, c'est comme ça. Et il y a quelque chose qui doit être libéré dans tout ça. Le Seigneur veut. Est-ce que le Seigneur est heureux quand on se tait ? Ben non, il est heureux quand on le loue. Et quand notre propre témoignage... Mais je suis... Là encore, ce n'est pas un jugement. Que chacun ne le prenne pas comme ça. Parce que je suis pas... Je suis dans d'autres compartiments pires que les autres. Donc, mais il faut qu'on constate tout ça. Et puis ben, qu'on s'ajuste, tout simplement. Est-ce que je dois me fâcher ou faire comme ces hommes ont fait ? Porter ce fardeau dans la prière, intercéder comme ces hommes de Dieu en prenant le péché du peuple sur eux. Et puis si le fardeau est là, ben c'est bon signe. Le Seigneur ne me demande pas de le garder moi-même sur mes épaules. Et s'il nous dit dans Galates 6:2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est dans le but de décharger mon frère et ma sœur de son propre fardeau, mais de l'amener avec l'Église au pied de la croix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et le psaume 80 au verset 6 nous dit, c'est le Seigneur qui parle, j'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Mais là, il y a ma part. Venez à moi. Le fils prodigue, qu'est-ce qu'il a dit ? Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et j'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. On ne veut pas lâcher la corbeille. Ça, c'est mon cas. J'ai un fardeau, je l'apporte au Seigneur dans ma prière, mais je repars avec. Ben non, il veut que je le lâche. L'abandonner, ça demande simplement de croire qu'il va le prendre, tout simplement. Là encore, je vous dis ça parce que c'est mon besoin. Parce que quand j'ai un fardeau, je me rends compte que quand je repars, j'ai toujours le fardeau sur les épaules. Ce n'est pas ça le but. Le Seigneur, il me dit d'aller, de lâcher la corbeille, de tout lâcher, puis d'y abandonner. C'est d'une simplicité enfantine. Il veut qu'on ait des cœurs d'enfants. Ça nous était rappelé récemment. Il veut des adultes, des fils et des filles, mais avec des cœurs d'enfants, qui s'abandonnent totalement à leur père. Vous savez, j'ai toujours été frappé quand un papa prend son petit garçon, sa petite fille par la main, et puis qu'il veut lui faire traverser la route. Il y a beau avoir des voitures, le petit, si son papa le prend la main, il va le suivre. Par contre, s'il le fait tout seul, il sera en danger. Mais il fait confiance à son père. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ça la foi. Uniquement ça. Une foi enfantine. C'est des petites choses, mais c'est tellement important dans la vie de tous les jours. Et c'est le Seigneur qui le fait. Mais toujours, ma part, venir prendre son joug, lâcher la corbeille. Alors on pourrait toujours invoquer un manque de révélation, mais nous tous qui sommes sauvés ici, c'est parce que le Seigneur s'est révélé à nous, à chacun, que nous avons vu par révélation que son sacrifice était suffisant pour nous sauver et qu'il nous a manifesté par là son amour inestimable et incomparable. Que nous faut-il pour aller plus loin? Que me faut-il? Une autre révélation? Je ne crois pas. Lorsque je me présenterai devant le Seigneur, est-ce que je pourrais lui dire « Oh si, Seigneur, si tu t'étais révélé un peu plus à moi, je serais allé vraiment plus loin. » Vous croyez que ça tiendra ça devant lui? Absolument pas. Quand le Seigneur s'est révélé à Isaïe et qu'il lui a dit « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ?» Isaïe n'a pas répondu « Je vais réfléchir, puis je vais chercher quelqu'un. » Mais il a dit « Mais voici, envoie-moi. » Il y a toujours cette part de l'enfant de Dieu, de prendre une décision. C'est oui ou c'est non, mais c'est pas peut-être. Et puis c'est pas attends. Il sera peut-être trop tard. J'ai pas besoin, du moins je crois pas, d'une autre révélation de la part du Seigneur, mais je sais que ce dont le Seigneur a besoin, c'est que je m'engage sur le chemin qu'il a choisi pour moi, et celui des autres au sein de l'Église est aussi un chemin personnel. Lorsque le Seigneur me donne un ordre, ai-je besoin d'une révélation pour obéir ? Alors on va prendre un petit passage de la parole, parce que c'était en fait le passage que j'avais prévu de mettre au début, mais il fallait qu'on parle avant. Dans Jean 21, versets 15 à 19. Jean chapitre 21, versets 15 à 19. Après qu'ils eurent mangé, donc c'est après la pêche de Pierre qui a emmené ses copains à pêcher, après la résurrection du Seigneur, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » « en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et il te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Le Seigneur Jésus, imaginez-vous à la place de Pierre quand même. Il a renié son Seigneur par trois fois, en faisant des imprécations, des jurons. Vous imaginez cet homme qui a suivi le Seigneur Jésus, qui a promis d'aller jusqu'à la mort avec lui et qui a complètement trébuché, failli, chuté. Et là, il se retrouve face à face à son Seigneur. Et puis, il vient de repartir à la pêche. Le Seigneur n'y a encore fait aucun reproche. il y a préparé à manger. Puis le Seigneur dit, est-ce que tu m'aimes? Alors, les deux premières fois, il emploie un terme spirituel. La troisième fois, il se met au niveau de Pierre. Mais il y a de quoi être attristé, imaginez-vous à sa place. On n'oserait pas, on dit, oui, Seigneur, mais tu sais tout, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. Et c'est ce qu'il lui dit, en fait. Et le Seigneur Jésus lui pose cette question trois fois. Il ne peut pas se défiler, Pierre. Hein, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Rien d'autre, en fait, rien d'autre que ça. Je t'aime. Pour accomplir le ministère que j'ai pour toi. Est-ce que tu m'aimes? La réponse est oui, avec tous mes défauts, toutes mes lacunes, toutes mes défaillances. Mais Seigneur, je t'aime. Voilà. Et à partir de là, le Seigneur Jésus, il lui donne ce ministère. Paix, mes agneaux. Il ne lui dit pas, va faire une école biblique. Il ne lui dit pas, va faire une faculté, des études. Non. Paix, mes agneaux. Il ne dit pas, tu paîtras. Fais-le maintenant. Parce que tu m'aimes. Et ce Seigneur ne demande que ça. Là, et la preuve de ce qu'on l'aime, c'est Jean 14, versets 21-24, qu'on va prendre ensemble. On n'est pas loin. Donc Jean 14, versets 21-24. Qui est la démonstration de celui qui aime le Seigneur, comment ça se manifeste? Jean 14, 21 à 24. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et nous au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est tout simple. Si je dis que je t'aime, je fais ce que tu me demandes. C'est aussi simple que ça. Puis il y a une deuxième chose quand même. C'est la suite du passage. Donc on va prendre la suite. Au chapitre 21, on revient au chapitre 21. Hein. Donc on va reprendre le verset 19 et puis on va lire jusqu'au verset 23. Il dit cela, donc le Seigneur, pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, donc Jean, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Le Seigneur, au verset 19, on a vu qu'il dit à Pierre, « Suis-moi. » Et la première chose que fait Pierre, il se retourne. Il se retourne, il ne suit pas, il voit son copain là, qui est en train de passer, mais lui, qu'est-ce qui va y arriver ? Et c'est parce que le Seigneur demande. C'est parce que le Seigneur ne demande pas de voir l'état des autres. De constater, oui, mais de constater le mien. Que t'importe ? Toi, suis-moi. La réponse fuse. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Si je veux qu'il meure avec moi jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin, c'est pas ton problème. C'est le chemin pour chacun, la bonne voie. Les hommes de Dieu, qui sont parfois seuls contre tous, dans un contexte épouvantable, mais le Seigneur a pu utiliser ses hommes fidèles pour en ramener d'autres et gagner des batailles. C'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous, quel que soit le contexte, si dramatique soit-il. Et pour finir, je vais vous lire ce petit passage du Trésor de la foi qui était hier. Alors, j'ai été frappé parce que c'était tout à fait dans le contexte. C'est Spurgeon qui dit, donc je vous le lis pour finir, « Quand le pays avait été dévasté par les pillards, et rendu semblable à un champ brouté par les sauterelles. Quand les guerriers qui le défendaient s'asseyaient à terre et pleuraient comme des femmes, alors l'Éternel venait à son secours. Quand les voyageurs abandonnaient les routes de Sion et que les coteaux de Bazan et de Carmel semblaient pareils à des vignes brûlées, l'Éternel paraissait. Dieu est exalté au sein d'un peuple affligé, alors que celui-ci cherche sa face et prend confiance. Il l'est plus encore quand, en réponse aux cris des malheureux, ils se lèvent en personne pour les délivrer en renversant leurs ennemis. Ce jour est-il pour nous un jour de tristesse ? Comptons que Dieu se glorifiera par notre délivrance. Sommes-nous tourmentés par un sujet d'anxieuse prière et crions-nous à lui jour et nuit? Son temps pour nous faire grâce est proche. Dieu s'élèvera à son heure, celle qui sera la plus propice au déploiement de sa gloire. Nous désirons sa gloire encore plus que notre délivrance. Que le Seigneur soit exalté et notre désir principal sera accompli. Seigneur, aide-nous de telle manière que nous puissions voir que tu es à l'œuvre, que nous te magnifions dans le secret de notre cœur et que tous ceux qui nous entourent reconnaissent quelles sont ta bonté et ta grandeur. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Bon, c'est un message d'encouragement finalement. Heureusement. On a beau constater ce qu'on voit, mais il ne faut pas baisser les bras. Le Seigneur nous demande de faire ce qu'il nous demande, puis le reste, il l'accomplira.